France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, à qui profite le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et investiture de Trump? Est-ce le rendez-vous de l'international réactionnaire? Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro, Que devient le travail intellectuel? Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie, c'est votre dernier livre chez Stock. Laetitia Stroche-Bonnard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, votre dernier essai c'était chez Perrin, De la France, ce pays que l'on croyait connaître. Et Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du Cerf, Occident ennemi mondial numéro 1, c'est votre dernier livre chez Albin Michel. Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous évoquerons la cérémonie d'investiture de Donald Trump demain à Washington et surtout le casting des invités. Ont été conviés l'Argentin Milei, l'Italienne Meloni, le Hongrois Orban, mais aussi plus inattendu, les Français Zemmour, Knafo et Maréchal. Peut-on parler à propos de cet aréopage d'une internationale réactionnaire dont le nouveau président américain serait le leader? Nous en débattrons. Mais pour commencer, direction le Proche-Orient, avec cet accord de cessez-le-feu qui vient d'entrer en vigueur entre Israël et le Hamas.
Le Hamas a enfin donné son accord à la libération des otages. Il n'y avait aucune option, autre option pour que cette guerre se termine que par un accord sur les otages. Je suis profondément satisfait que ce jour soit enfin venu, pour le bien du peuple israélien, pour les familles qui attendaient en souffrance et pour le bien des innocents à Gaza qui ont souffert tant de destruction en raison de cette guerre.
Annoncé mercredi soir par le président américain Joe Biden, le cessez-le-feu devait entrer en vigueur ce matin à 7h30 heure française. Il a eu un peu de retard, cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, mais l'organisation palestinienne a fini par publier l'identité des trois premiers otages libérés, condition imposée par la partie israélienne pour que l'accord entre en vigueur, ce qui est fait depuis environ trois quarts d'heure. Cet accord doit mettre un terme, au moins provisoire, à de longs mois d'attente, celle de la libération donc de l'ensemble des otages qui restent à libérer, ceux aux mains du Hamas, et de souffrances liées notamment aux destructions, aux milliers de morts causées par les bombardements israéliens, avec l'espoir de voir la trêve succéder au cessez-le-feu et la paix succéder à la trêve. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a fini par en accepter les grandes lignes dans la nuit de vendredi à samedi. Le texte prévoit plusieurs phases. D'abord donc un cessez-le-feu de 6 semaines, durée durant laquelle 737 prisonniers palestiniens vont être relâchés en échange de la libération au compte-gouttes de 33 otages aux mains du Hamas. L'aide humanitaire doit être également facilitée. Viendra ensuite, dans un second temps, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, une fois que tous les otages seront libres. Puis une troisième et dernière phase, celle de la reconstruction d'un territoire très largement détruit par 15 mois de bombardement. Alors, il a fallu l'entregent de l'Égypte, du Qatar et surtout des États-Unis pour parvenir enfin à un tel accord. Attelage inédit, celui d'un président sortant et d'un nouvellement élu, Joe Biden et Donald Trump, qui disent avoir travaillé de concert pour parvenir à cette issue. Issue qu'il va falloir ensuite convertir en paix durable, ce qui suppose de penser à une solution politique. Pour beaucoup, celle-ci passe forcément par la création d'un État palestinien, mais qui serait capable d'en assumer la charge? Jean-François Colosimo, commençons d'abord par cet accord qui a été conclu et qui vient d'entrer en vigueur entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est un bon accord?
C'est un accord, donc il permet surtout aux premiers otages encore revenus et survivants de revenir. Il permet aux Gazaouis d'accéder à des soins alimentaires, humanitaires, qui étaient véritablement nécessaires. Maintenant, ce n'est jamais qu'un cessez-le-feu. Il ne règle rien de l'avenir de la région. Si on veut regarder les choses, il correspond en fait à une triple opportunité qui s'est dessinée. D'abord, le fait que Israël a remporté sa guerre régionale, n'est-ce pas? Non seulement en décimant le Hamas, en décapitant le Hezbollah, mais aussi en pilonnant, à la faveur du changement qui est advenu en Syrie, je dirais, les réserves militaires de Damas, et puis aussi en coupant l'Iran du Liban et de l'accès à la Méditerranée. Netanyahou lui-même profite du fait que sa coalition s'est élargie en septembre 2024 et qu'il est un peu moins dépendant, en fait, des partis nationalistes religieux, je dis bien religieux. Ça, c'est un point très important aussi, donc il a un peu d'air. Et puis surtout, c'est l'arrivée tout de même de Trump au pouvoir, qui change la donne, puisque si l'on en croit Eli Barnavi, intellectuel israélien, historien, ancien ambassadeur d'Israël en France, l'administration Trump lui-même, aurait littéralement aboyé sur Netanyahou pour obtenir cet accord avant la cérémonie d'investiture du président nouvellement élu. Ça me semble aussi important, parce que si le cadre du cessez-le-feu a largement été préparé par l'équipe Biden, il est évident que l'accélération du calendrier est due à, la consécration de Trump. Voilà, donc on en est là. Maintenant, ce cessez-le-feu ne règle rien. Bah, quel avenir pour Gaza ? Quel avenir pour les Palestiniens ? Quelles sont les conditions de sécurité qu'Israël peut réellement obtenir à court terme, moyen terme, long terme, n'est-ce pas ? Et quel est l'avenir général de la région ?
En même temps, c'est normal que ce cessez-le-feu ne règle rien, c'est-à-dire qu'il faut procéder par étapes. C'est nécessaire peut-être d'abord de faire taire les armes pour réfléchir après à la suite.
Vous savez que d'abord, il est déjà en plusieurs étapes, on verra bien si on arrive à la complétion de toutes ces étapes, rien n'est moins sûr. Le deuxième point, c'est que le Hamas, on le sait aussi aujourd'hui, je dirais, est certainement décapité, décimé, mais il n'est pas mort, et surtout parce que on ne tue pas une idéologie comme l'on peut éliminer ses représentants. Donc l'avenir des Gazaouis reste largement suspendu à un retour assez improbable d'une autorité palestinienne qui aurait été réformée, rénovée, revivifiée, vous voyez. Et ça sont les véritables perspectives, et là tous les éléments font défaut. Et il n'y a pas de raison de penser que cette guerre va s'arrêter comme par magie, parce qu'un cessez-le-feu bienvenu pour les populations des deux côtés a été acté.
Sylvie Kaufmann, vous partagez le même constat et les mêmes interrogations que Jean-François Colosimo ?
Oui, je crois que tout ça est malheureusement assez réaliste et assez vrai. Je crois qu'il y a aussi un autre... Tous les facteurs que Jean-François a énumérés sont exacts. Je crois qu'il faut aussi parler du prendre en compte le rôle des sociétés civiles israéliennes et palestiniennes. Il y a un moment où, au bout de 15 mois, il y a un état d'épuisement partout qui est à la fois physique, bien entendu, et moral. Et il y a aussi l'armée israélienne qui, je pense, a été tellement active sur tous les fronts depuis le 7 octobre, qu'il y a aussi probablement la nécessité d'une pause dans l'action militaire. Mais c'est vrai que ce qui manque énormément, comme vous le dites, c'est un accord de cessez-le-feu, ça n'est pas un accord de paix. Donc ça n'est qu'une première étape en plusieurs phases, et il faut voir si ces phases seront réalisées, bien sûr. Et on peut être très prudent sur l'exécution de cet accord, d'autant plus qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de mécanisme de contrôle de l'application de l'accord. Donc, il faut que les parties qui ont été les intermédiaires dans cette affaire, c'est-à-dire le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, continuent à être extrêmement vigilants, à veiller à ce que les choses se mettent en place avec Israël, avec le Hamas. Est-ce que les Européens, peut-être, peuvent aussi jouer un rôle là ? Ça va se discuter certainement. Mais bon, en effet, je crois qu'il faut être très très prudent, et la chose qui manque et sur laquelle il va falloir travailler, bien sûr, dans les semaines qui viennent, c'est le jour d'après. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que les armes se taisent, une fois que les otages ou ceux qui sont encore vivants reviennent, qui va gouverner Gaza ? Donc l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien excluent qu'il y ait une participation du Hamas dans cette future gouvernance de Gaza, mais en même temps l'autorité palestinienne...
Il y a toujours Mahmoud Abbas, mais qui voilà, ne semble-t-il pas le plus à même
Il a 89 ans, il bloque toute possibilité de réforme, c'est quand même l'état de délabrement
de
la représentation palestinienne et quand même un obstacle absolument terrible. Il y a plusieurs plans qui ont été formulé ou présenté. Il y avait le plan de l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, israélien, qui parlait d'organes palestiniens, mais lesquels? Est-ce qu'il y aura un gouvernement militaire? Est-ce qu'il peut y avoir une tutelle internationale? Est-ce qu'il peut y avoir une coalition de pays arabes qui coopèrent pour essayer d'exercer une sorte de tutelle ou de gouvernance intérimaire? Sont des options. Il y a aussi le plan qu'a présenté Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain sortant, il y a une semaine, et qui propose d'unifier Gaza et la Cisjordanie, qui dit qu'il y aurait effectivement une autorité palestinienne plus des représentants de Gaza issus d'une consultation avec la population. Mais quelle consultation? C'est évidemment très vague. Il exclut une occupation militaire israélienne et il exclut aussi des déplacements forcés de population. Il propose qu'il y ait une aide des partenaires internationaux pour la mise en place d'une gouvernance. Voilà, tout ça sont des idées qui sont formulées, qui sont bonnes, mais dont on voit mal à l'heure qu'il est et au jour d'aujourd'hui comment elles peuvent concrètement se mettre en place.
Alors ça va peut-être dépendre de la nouvelle administration américaine. Est-ce que d'ores et déjà, Lorraine Bujon, comme on l'entend beaucoup depuis ces derniers jours, depuis que cet accord de cessez-le-feu a été annoncé, est-ce qu'on peut considérer que c'est une première victoire diplomatique pour Donald Trump? Lui, il l'a revendiqué comme tel.
Oui, bien sûr. Lui tenait à l'afficher comme tel. Et ce qu'on peut dire, je crois, c'est que l'administration Biden... qui vraiment ne ménage pas ses efforts depuis des mois et des mois pour obtenir cet accord de cessez-le-feu, en fait était prête, y compris à ce que Donald Trump l'endosse comme une victoire, puisqu'on lit partout qu'il y a eu une bonne coordination en fait des équipes sur place, notamment entre l'ancien coordinateur, Jake Sullivan, envoyé spécial au Moyen-Orient, et le nouveau, Steve Witkoff. En effet, je pense que c'est la perspective de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui a permis de débloquer la situation et la façon dont il a tempêté parce qu'il voulait afficher ce succès. Ça interroge aussi sur quelle a été la nature du deal ou de l'accord, parce que on sait aussi que le conflit israélo-palestinien, c'est vraiment un des domaines dans lequel on peut attendre une politique étrangère de Donald Trump qui soit assez différente de celle de Joe Biden, dans le sens où il y a toutes les chances qu'il soit beaucoup plus conciliant avec cette droite nationaliste et la droite religieuse israélienne. Donc, il voulait cette victoire, il l'a eue. Netanyahou l'a lui accordé, servi sur un plateau. En échange de quoi et de quelles concessions? Je trouve que c'est ça qui inquiète déjà.
J'ai entendu certains analystes dire c'est peut-être en échange d'un soutien plus affirmé des États-Unis, d'Israël à l'égard de l'Iran. Et avec la possibilité, peut-être, d'avoir...
Oui, donc un soutien plus affirmé, je crois que c'est pas la question du soutien à Israël, c'est la question du soutien à la droite nationaliste et religieuse israélienne. Et donc là, il faut peut-être rappeler la personnalité. Donc Steve Witkoff, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est un investisseur immobilier qui a très peu d'expérience dans le domaine de la diplomatie ou de la politique étrangère. Voilà, j'étais polie, je disais très peu, disons aucune. Et l'autre, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, on peut aussi rappeler, c'est un pasteur baptiste, c'est un chrétien évangélique. et l'ancien gouverneur de l'Arkansas, et qui clairement ne parle jamais de la Cisjordanie, il parle de la Judée et Samarie, il a déjà dit qu'il n'y avait pas d'occupation, qu'il n'y a pas de problème avec la colonisation, enfin bon. Donc tout ça n'augure rien de bon, et dans ce cessez-le-feu en fait qui est en trois étapes, si j'ai bien compris, dans la deuxième étape du cessez-le-feu, il y a déjà un langage assez ambivalent sur les conditions dans lesquelles ça pourrait se poursuivre ou la guerre pourrait reprendre. Et donc là, effectivement, il y a question. Si la guerre devait reprendre au bout de 6 mois, est-ce que l'administration Trump protesterait ou non ? Et pas forcément. Donc là, je pense qu'il va y avoir une clarification pour les gens qui trouvaient que la politique de Biden était un peu ambivalente, que la pression exercée sur Israël n'était pas assez forte ou assez suivie des faits, puisqu'on exerçait une pression mais on ne suspendait pas les livraisons d'armes, etc. Ici, je pense qu'il va y avoir une clarification, mais est-ce que ça permettra aux États-Unis de poursuivre ce qu'ils ont toujours dit ? Ils ont toujours dit qu'ils étaient en faveur de la solution à deux États. Est-ce que l'administration Trump va continuer de pousser pour une solution à deux États ? Pour moi, rien n'est moins sûr.
Est-ce que ce qui vient de se passer, en tout cas ces derniers jours et ces dernières heures, Laetitia Strauss-Bonnard, ça n'est pas finalement aussi peut-être la démonstration que les ultimatums en matière de diplomatie et de politique étrangère, parfois ça fonctionne. La preuve, celui qui avait donné Donald Trump au gouvernement israélien, là, a plutôt été suivi des faits.
C'est très probable. En fait, pour être plus précise, Donald Trump a dit en gros que ce serait l'enfer pour tout le monde si les otages ne revenaient pas, donc si ce cessez-le-feu n'avait pas lieu. Et il a bien dit pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il parlait autant au Hamas qu'à Israël. Donc il a certainement fait peur à ses partenaires et à ses ennemis. Donc oui, il semblerait qu'aujourd'hui, la diplomatie ne fonctionne plus beaucoup, en tout cas dans ces circonstances-là. La recherche de compromis, la recherche d'apaisement, les menaces qui ne sont jamais suivies des faits, rappelons-nous les lignes rouges d'Obama qui n'en étaient pas. Là, on est passé à un tout autre registre qui est à la fois très explicite dans la parole et aussi très concret dans les actes. Et d'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est le style, en fait, même le style rhétorique qui est employé par Donald Trump et par son envoyé, enfin son futur envoyé au Moyen-Orient, Steve Witkoff, que vous avez cité. Il ne parle absolument pas comme des diplomates, il parle comme des investisseurs immobiliers, des promoteurs. Mais peut-être que c'est ça qui marche. Il y a une vraie question, en fait, sur ce qui s'est passé en fait, entre Witkoff et Netanyahou. Donc, hormis le fait qu'en effet, on ne sait pas quels sont les termes exacts du deal, on sait aussi quand même que M. Witkoff a pris son téléphone et a expliqué qu'il arriverait samedi après-midi en Israël et qu'il tenait à voir M. Netanyahou. Et on lui a répondu, mais écoutez, c'est pas possible, c'est le Shabbat. Et lui, il a dit, je n'en ai rien à faire. Ouais. Et donc, cette façon un petit peu brutale...
Mais c'est quoi? C'est de la naïveté?
Mais non, et ça a marché. Parce que, du coup, il a obligé Netanyahou à venir le rencontrer, alors que peut-être une autre personnalité aurait été beaucoup plus polie. Donc là, en fait, finalement, l'administration américaine qui arrive, Trump, Witkoff, n'ont plus envie d'être poli ou d'attendre ou d'avoir de bonnes manières. Et c'est ce qu'on reproche à Trump depuis le début. Hein. C'est qu'il est vulgaire, c'est qu'il est brutal, ce qui est vrai. Mais il semblerait que parfois ce soit nécessaire face à des pays ou des dirigeants qui le sont encore plus. Alors encore un mot sur M. Witkoff. Quand même, il faut noter que il a fait toute sa carrière dans l'immobilier à New York et il a notamment travaillé à Harlem et il allait collecter les loyers qu'on lui devait avec un revolver. C'est quand même pas un enfant de cœur qu'on a là. Donc voilà, comme je le disais, c'est peut-être pour le pire ou le meilleur. Et plus généralement, ça pose une question sur l'impact d'un tel style diplomatique sur les relations à venir entre les États-Unis et Israël, et même sur l'état de la paix, la construction de la paix au Proche-Orient, parce que finalement, il y a deux options possibles. Soit ce style sera payant et tout le monde sera terrorisé, et finalement, tout le monde s'adaptera aussi. Peut-être même que l'Europe adoptera une rhétorique un petit peu plus martiale également. Soit, en fait, ça va créer de la confusion. sachant qu'il y a quand même un autre élément de la politique trumpiste qui est présent depuis le début, depuis 2016, c'est l'imprévisibilité. Et le problème de l'imprévisibilité, c'est que ça peut avoir des avantages parce que ça surprend votre adversaire, vous arrivez à, disons, à manœuvrer, mais ça peut être aussi, comment dire, une telle source d'incertitude pour les alliés que cela pourrait nuire quand même grandement à l'établissement de la paix. Donc Trump le sait très bien. Il joue de cette incertitude, de cette imprévisibilité. Mais pour l'instant, il me semble que c'est à son avantage.
Jean-François Colosimo, est-ce qu'on est encore justement avec la diplomatie telle que l'envisage Donald Trump dans ce deuxième mandat, dans le domaine de l'imprévisibilité, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu plus cohérent, d'un peu plus construit quand même dans ce qui se prépare, notamment pour le Proche-Orient ?
Je suis d'accord avec Laetitia sur le fait que la brutalité de Trump correspond assez à la brutalité de Netanyahou, et que donc une conversation sans embauche, sans détour sur de grands principes, comme pouvait pratiquer l'administration Biden, a permis d'arriver à un résultat qui, de toute façon, là, pour le coup, était prévisible. Le cessez-le-feu, je dirais, était en l'air. On se demandait quand est-ce qu'il allait arriver, puisque Netanyahou a marqué tous ses avantages à l'échelle régionale.
La véritable... L'accord qui a été conclu, en plus, existait depuis déjà des mois.
Depuis très longtemps.
La véritable question qui est derrière, c'est jusqu'où Trump peut être d'accord avec Netanyahou pour aller taper l'Iran. Parce qu'en fait, ce conflit, en 1948, il y a un conflit israélo-arabe. Dans les années 80-2000, il y a un conflit israélo-palestinien. Mais depuis, on a affaire à un conflit israélo-iranien, particulièrement à travers le projet qu'avait l'Iran d'encercler Israël avec ses proxys, le Hamas, le Hezbollah et la Syrie d'Al-Assad, n'est-ce pas ? Donc, la question maintenant, c'est, ce régime iranien affaibli, est-ce que Israël, qui a besoin, dans ce cas-là, du soutien des États-Unis, va tenter d'attaquer ces installations nucléaires ? C'est ça la véritable question qui est derrière, ou pas ? N'est-ce pas ? Et de ce point de vue-là, la question du cessez-le-feu, elle devient quand même... Je suis désolé de le dire, c'est pas vrai sur place, c'est pas vrai pour les otages, c'est pas vrai pour les populations civiles. Mais sur, je dirais, le grand schéma régional, elle devient en quelque sorte une question, je dirais, subséquente, parce que, en fait, ça y est, de ce point de vue-là, pour l'instant au moins, on verra comment le Hamas va renaître, sous quelle forme, etc. Et avec quelle forme pernicieuse aussi, parce que rappelons-nous quand même que le Hamas en vient à libérer des otages après 15 mois de souffrance du peuple gazaoui, n'est-ce pas ? Hein ? Ça, il faut quand même bien le dire. Je veux dire, le premier responsable de tout ça, c'est le Hamas. Et point barre. Mais par rapport à ça, la question, c'est Téhéran. Avec un régime affaibli, mais qui tient encore. Un régime affaibli, mais qui tient encore, car ce régime, en fait, est véritablement aujourd'hui constitué d'une oligarchie qui a des intérêts communs de survie. Voilà. Et la grande question de la région, c'est l'Iran.
Sur la région, justement, et sur peut-être la cohérence qu'on peut trouver dans la façon dont la nouvelle administration américaine va aborder ces questions, il y a Donald Trump qui dit qu'il veut relancer les accords d'Abraham. Ouais. Les accords d'Abraham, c'est août 2020, c'est des traités de paix séparés, mais entre Israël et les Émirats Arabes Unis d'une part, et Israël et Bahreïn d'autre part. Est-ce que ce cessez-le-feu, on peut aussi penser qu'il s'inscrit dans cette dynamique-là, Anne-Laure Bujon?
Non, mais tout à fait, je crois que vous avez raison de souligner que là, il y a une politique de l'administration Trump qu'on peut lire d'une manière relativement cohérente. En un sens, c'est comme si il souhaitait reprendre ce dossier là où il l'avait laissé en quittant la Maison Blanche il y a 4 ans. Et donc, le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv et ensuite les efforts des États-Unis pour parrainer... De Tel Aviv à Jérusalem et les efforts des États-Unis pour parrainer ces accords israélo-arabes, les accords d'Abraham, ça faisait partie des fiertés de Donald Trump en matière de politique étrangère. Et il souhaite reprendre les choses là où il les a laissées. Donc ce processus de normalisation a évidemment été interrompu par les massacres du 7 octobre et par la guerre qui s'en est suivie. Et je pense que c'est une des grandes questions maintenant. Est-ce que ça va pouvoir reprendre dans les mêmes termes, c'est-à-dire en passant la question palestinienne par pertes et profits, parce que c'était quand même ça, les accords d'Abraham. Hein, c'est quand même les grandes puissances arabes de la région qui renoncent à obtenir des concessions pour les Palestiniens. Et ce qui a renforcé l'Iran dans cette région, c'est que ce sont eux, finalement, qui ont repris la question palestinienne pour s'en faire les défenseurs. Donc là, c'est la question. On l'a dit, cet accord de cessez-le-feu, il a été parrainé par les États-Unis, le Qatar, l'Égypte. Moi, je n'ai pas d'informations secrètes de ce qui se passe sur place, mais les pays arabes de la région sont-ils prêts à repartir dans ce processus de normalisation sans rien obtenir pour les Palestiniens ou pas. Et sur la reconstruction de l'autorité palestinienne.
Or le financement de la reconstruction de Gaza. Et peut-être que l'Arabie Saoudite se contenterait, le Qatar, les Émirats, surtout l'Arabie Saoudite et les Émirats, se contenteraient de ce rôle de bienfaiteur pour avoir la paix, puisque leur problème aux Émirats et l'Arabie Saoudite reste tout de même encore l'Iran.
C'est Luc Hoffmann.
Oui, dans la continuation de ce que disait Anne-Lorraine, je voudrais revenir à la question initiale que vous avez posée tout au début, c'est à qui profite cet accord ? Et si vous regardez le Hamas, par exemple, il a l'air d'avoir été vaincu, mais en réalité, il n'a pas été éradiqué, mais c'est avec le Hamas que Israël négocie cet accord de cessez-le-feu. Et Anthony Blinken l'a dit lui-même, le mouvement a réussi à régénérer ses forces, c'est-à-dire que le nombre de militants du Hamas qui ont été tués par Israël ont été à peu près remplacés, plus ou moins. Donc c'est là on a quand même quelque chose qui est un fait dont il va falloir tenir compte dans ce fameux jour d'après dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que et beaucoup va dépendre de la disposition du Hamas à s'effacer dans le processus politique qui va venir après. Est-ce que il va prendre une forme de le modèle du Hezbollah, c'est-à-dire laisser les autres gouverner et en profiter pour recréer sa structure, son infrastructure militaire, ou bien est-ce qu'il va être plus coopératif ? Ça, c'est une des choses. L'autre acteur principal, évidemment, c'est Israël. Et on a l'impression qu'Israël... Rappelez-vous que Benjamin Netanyahou, le 9 octobre, donc deux jours après les massacres du 7 octobre, a dit « je vais changer le Moyen-Orient ». Et si on regarde en effet le paysage régional aujourd'hui, le Moyen-Orient est effectivement remodelé avec le soutien. Et ce remodelage s'est fait avec le soutien actif des États-Unis et de l'administration Biden, y compris militaire. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça aujourd'hui ? Effectivement, l'Iran, on voit que l'Iran est la principale... Et l'acteur contre lequel l'Occident et Israël coopèrent, et l'acteur sur lequel ils vont vouloir s'appuyer, c'est l'Arabie Saoudite. Or, l'Arabie Saoudite maintenant, qui est donc un acteur montant dans ce remodelage, ce que dit Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, il pose aujourd'hui comme condition la création d'un État palestinien, pour poursuivre dans l'optique des accords d'Abraham. Donc on a vraiment maintenant, je crois, une équation qui est tout à fait renouvelée au niveau régional.
Alors justement, pour terminer sur ce sujet, provisoirement évidemment, Laetitia Strauss-Bonnard, est-ce que malgré ce remodelage qui est effectivement impressionnant quand on jette un regard rétrospectif sur les 15 derniers mois sur la région, les solutions quand même politiques, ça reste malgré tout cette solution à deux États, un État israélien, un État palestinien, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a un paysage qui est complètement bouleversé, mais que les solutions qui sont avancées, en tout cas s'agissant du conflit israélo-palestinien, sont quand même toujours les mêmes que celles qu'on entend depuis des années.
C'est très compliqué, mais il n'y a pas non plus un nombre infini de solutions. Je pense que la solution des deux États, c'est celle qui réunit le plus, disons, de gens à la fois réalistes et, disons, je ne vais pas du tout dire idéalistes parce que ce n'est pas le bon terme, mais qui ont quand même une conscience qu'il y a, disons, une volonté d'habiter quelque part et de pouvoir réclamer un territoire comme sien des deux côtés. Donc le problème, c'est que depuis, en tout cas depuis le début, depuis que le conflit s'est réenflammé dans la région, ce sont plutôt les extrémistes des deux bords qui ont pris les devants et qui mènent les choses. Et c'est bien plus difficile dans ce cas-là. Il y a une question importante, c'est aussi dans les jours, les mois à venir, quel sera l'avenir de Benjamin Netanyahou, parce que il est difficile de savoir dans quelle mesure le cessez-le-feu va lui bénéficier ou non. Ça peut lui bénéficier notamment vis-à-vis de l'opinion publique qui l'attend avec impatience. Ça peut aussi se retourner contre lui parce que d'aucuns le critiquent parce qu'il aurait attendu beaucoup trop longtemps. Et par ailleurs, il a quand même dans son gouvernement des gens qui sont plus à droite que lui. Donc tous les nationalistes à la Ben-Gvir ont de toute façon menacé de quitter le gouvernement et de...
Ils ont annoncé qui partaient.
Ils partent parce qu'ils ne soutiennent pas le cessez-le-feu. Pour eux, il n'y a aucun compromis possible. Il faut annexer ces territoires qui selon eux qui leur appartiennent. C'est assez compliqué de pouvoir projeter ce qui va se passer en Israël, parce que ça dépend quand même aussi beaucoup de la politique intérieure de ce pays. Et on ne peut qu'espérer que les partisans d'une solution à deux États l'emportent.
Un tout dernier petit mot de
Sylvie Kaufmann. Oui, juste une chose pour revenir sur Israël et le fait que, en effet, Benjamin Netanyahou peut se targuer d'avoir éclairci le paysage régional, si je peux dire, et affaibli l'axe de résistance avec l'Iran, le Hezbollah, etc. Mais à quel prix ? À quel prix ? C'est-à-dire au prix de plus de 46 000 morts. On va sans doute découvrir un bilan bien plus terrible encore lorsqu'on va pouvoir enfin entrer, et que les journalistes notamment vont pouvoir entrer, les journalistes étrangers vont pouvoir entrer à Gaza, les organisations humanitaires, et l'impact sur l'image d'Israël est quand même dans le monde entier, est quand même absolument terrible dans ces 15 mois. Et puis sur Benjamin Netanyahou lui-même, qui reste sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On voit encore ces jours-ci où on va célébrer le 80e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz, les problèmes que posent les voyages de Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, en Europe.
Jean-François ?
Oui, mais... Tout ça, bien sûr, reste que le monde arabe est malade de l'islamisme, que le Hamas représente cet islamisme, et que c'est quand même aussi au monde arabe de régler ses relations avec la modernité. Si l'on veut une paix réelle au Proche-Orient, ça dépend aussi, aujourd'hui, véritablement, non seulement des dirigeants, mais de ce qu'on appelle communément la rue arabe. Et là, on en est aussi très très loin. La preuve, c'est que le Hamas se reforme.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie.
C'est un carton d'invitation qui vaut son pesant de beurre de cacahuète. L'avoir en main, c'est faire partie des quelques happy few conviés à assister demain à Washington à l'investiture de Donald Trump. Et il faut reconnaître au nouveau président américain, ainsi qu'à ses équipes, un certain sens de la disruption en matière de casting. Qui a été invité ? Bien notamment le président argentin Javier Milei, son homologue du Salvador Nayib Bukele, mais aussi l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro, le chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, le premier ministre hongrois Viktor Orban, et côté français, Éric Zemmour, l'eurodéputé Sara Knafo, une proche de Zemmour, et Marion Maréchal. Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron, lui, n'a pas été convié. Si cette liste n'est pas exhaustive, elle témoigne en tout cas d'une volonté d'imprimer à ce moment solennel une coloration politique assez marquée. Tous les invités cités appartiennent à la galaxie de l'extrême droite, à moins qu'on préfère leur accoler l'étiquette de populiste. Mieux, ils font partie ou ferez partie de l'internationale réactionnaire. Alors l'internationale réactionnaire n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas d'organisation comme avec l'internationale socialiste. Pas non plus de bannière revendiquée par ses membres. C'est une abstraction pour désigner une tendance bien réelle, l'union tacite entre des dirigeants du Nord comme du Sud, qui se retrouvent derrière un refus de l'immigration, un désintérêt pour l'écologie, ou encore, et peut-être avant tout, un rejet des idées dites progressistes. Alors, si Donald Trump apparaît comme le général en chef de cette armée, Elon Musk et son réseau social X en sont le bras armé. L'international réactionnaire, c'est d'ailleurs la formule, vous l'avez entendu, qu'a utilisé Emmanuel Macron au début du mois lors de la conférence des ambassadeurs pour dénoncer le travail de sape idéologique mené par Musk au profit de cet aréopage. Un club de moins en moins restreint, dans lequel on pourrait sans doute ajouter l'Indien Narendra Modi, ou encore le Chinois Xi Jinping, c'est un petit peu à la carte. Alors faut-il craindre cette internationale réactionnaire, si tant est qu'elle existe? Et si c'est le cas, comment y faire face, si tant est qu'il faille s'y opposer? Pour en discuter, nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Colosimo, Laetitia Stroche-Bonnard, Sylvie Kaufmann et Anne-Lorraine Bujon. L'internationale réactionnaire a rendez-vous demain à Washington, Anne-Lorraine Bujon.
Alors, sur cette investiture de Trump, puisqu'on commence par le carnet de balles, là, je crois qu'il faut rappeler ce qui s'était passé lors de la première investiture de Trump en 2017, hein, parce que cet épisode, en fait, était très significatif. Souvenez-vous, Donald Trump s'était vanté d'avoir eu un monde incroyable sur le Mall à Washington pour son investiture. Beaucoup, beaucoup plus que pour Barack Obama, ce qui était totalement démenti par les faits, les comptes, les journalistes présents, les photos qui montraient qu'en fait, il n'y avait pas grand monde. Et or, Donald Trump est déterminé à se venger des déconvenues qu'il a eues dans ce premier mandat. Et donc ici, c'est vraiment très important qu'il y ait beaucoup de monde à son investiture et en fait, des amis, des alliés, des affidés, d'où ces invitations très à la carte. Mais c'était aussi l'inauguration des faits alternatifs, hein, parce que c'était dans la foulée de cet épisode qu'on avait vu sa conseillère de presse, Kellyanne Conway, dire en gros, chacun ses faits. Et moi, je trouve
demain,
ça...
Demain, apparemment, ça ne sera plus le cas. Hein. C'est-à-dire que là, il y a vraiment...
Il y aura vraiment du monde. Ils vont être obligés d'être en intérieur, mais donc, on ne pourra pas contester qu'ils étaient nombreux. Mais c'est pour moi l'explication, en fait, de qui était invité et pas invité. Là, il fallait vraiment pas prendre de risques. Alors, sur cette fameuse internationale réactionnaire, bon, je crois qu'il faut faire très attention, parce que effectivement, il n'y a pas une alliance effective, un bloc idéologique constitué de gens qui n'auraient que des valeurs, des idées et des intérêts communs dans cette clique un peu hétéroclite que vous nous avez présentée. Ce qui est vrai, c'est évident, c'est que le retour de Donald Trump au pouvoir est pris comme un signal très positif qui conforte à travers le monde un certain nombre de leaders qui vont des autocrates modérés aux dictateurs purs et durs et qui sont déterminés à en finir avec un ordre international dominé par des règles. Donc oui, il y a une sorte de convergence entre des discours très inquiétants, les discours sur la décadence de l'Occident par exemple, et qui sont volontiers liés à l'émancipation des femmes ou à la protection des minorités sexuelles. Donc l'idée que cet Occident est devenu faible, efféminé, notamment parce qu'il croit à la règle de droit et au droit international. Hein, c'est quand même ça qu'il faut rappeler. Donc il y a aussi le fait d'assumer des formes de nationalisme à coloration religieuse ou ethno-religieuse. Donc on va pas faire la liste. Ces gens ont des choses en commun, mais ils ont aussi des différences majeures. Enfin, entre un Javier Milei qui veut démanteler l'État et un Xi Jinping qui veut d'un parti communiste tout puissant. Il ne faut pas aller imaginer des cohérences idéologiques solides.
Ce serait étonnant d'ailleurs que des nationalistes se réunissent et s'organisent au sein d'une internationale. C'est un peu contradictoire.
Et même l'alliance, si vous voulez. C'est un très beau concept, l'alliance. Ouais. Hein, mais ça ça veut dire qu'on est prêt à se mouiller pour aller protéger ses amis ou ses alliés. On voit bien ce qu'il en est ici avec ces leaders antidémocrates. Demander à Bachar el-Assad ce que vaut le soutien de la Russie ou de l'Iran quand leurs priorités ont changé. Donc ça n'est justement pas une alliance. Mais il y a des convergences idéologiques, il y a un discours qui se répand et ces leaders se renforcent entre eux. Et puis, à côté des leaders, il y a aussi des représentants de pouvoir économique et de pouvoir technologique. Et ce qui est nouveau aussi, c'est ce mélange et ce rendez-vous des oligarques de tout poil. Peut-être juste pour dire que il y a deux choses à mon avis à laquelle cette clique en veut particulièrement. L'une, c'est la règle de droit et le droit international, parce qu'on fait absolument comme si ça n'existait pas. Et la deuxième, c'est la notion d'un espace public qui est un espace public où on peut établir des vérités de fait, et précisément où chacun n'a pas ses propres faits, contrairement à ce qu'affirmait Kellyanne Conway il y a 8 ans.
Pas d'alliance, mais des convergences, nous dit Anne-Lorraine Bujon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et avec justement cette appellation d'international réactionnaire, dont on voit bien les limites, Laetitia Strauss-Bonnard, mais qui permet peut-être quand même de redessiner aussi une espèce de paysage politique mondial.
Alors, je ne suis absolument pas d'accord avec l'usage du terme réactionnaire. Je trouve que c'est une forme de paresse, en fait, intellectuelle et idéologique, que d'appeler tout ce qu'on n'aime pas, quand on est centriste ou progressiste, réactionnaire, alors qu'en fait, la réaction, ça existe, et ça se définit très précisément. Alors, je vais essayer d'être brève. La réaction est née après la Révolution française. La réaction consiste à contester tout simplement la nouvelle donne politique de l'époque, qui est le libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est quoi? C'est l'existence de droits individuels et la défense de droits individuels vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société. Ce que disent les réactionnaires, c'est que le pouvoir ne peut pas venir des individus, il ne peut pas y avoir de peuple souverain, le pouvoir vient de Dieu. Donc un pouvoir sécularisé, ça n'existe pas, des droits individuels, ça n'existe pas, parce que l'État est supérieur aux individus, et même, disait Louis de Bonald, la société est supérieure aux individus et les individus n'ont même pas de droits, ils n'ont que des devoirs.
Et ça ne correspond pas au casting qu'on va voir demain à Washington.
Donc, j'ai cité Louis de Bonald, il y a aussi Joseph de Maistre qui lui insistait beaucoup plus sur la souveraineté de l'État, 1000 fois supérieure aux droits individuels qui n'existent quasiment pas. L'histoire de la réaction, jusqu'à Charles Maurras compris, c'est cette histoire d'une volonté de recréer, de faire advenir à nouveau un système politique pré-révolutionnaire. Donc c'est vouloir à nouveau une monarchie absolue et c'est nier l'existence de droits individuels. Alors cette réaction-là a disparu, elle a perdu en 1945. Simplement, le terme est resté et il n'existe pas qu'en France, il existe maintenant dans tout l'Occident. Être réactionnaire, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus général. Ça consiste à détester le monde moderne, détester le monde dans lequel on vit, estimer que le monde est complètement décadent. Il est décadent culturellement, il est décadent moralement, religieusement. C'est souvent aussi détester le progrès technique. C'est aussi détester la démocratie sous une forme qu'on estime dévoyée, au sens où il y aurait de plus en plus de droits, trop de droits et pas de devoirs qui vont avec. Et je citerai une troisième caractéristique, donc après le sens strict, le sens plus élargi, la troisième caractéristique selon moi est psychologique. Les réactionnaires, ce sont des gens qui sont extrêmement pessimistes et qui sont tellement pessimistes qu'ils sont désespérés. Je les oppose aux conservateurs qui sont des pessimistes mais qui ont de l'espoir. C'est très important cette différence. Ça veut dire que les réactionnaires, en fait, se lamentent du temps présent mais rarement ont des idées ou des programmes pour essayer de faire advenir le monde qu'ils regrettent. Pourquoi? Mais parce que ça imposerait de faire des compromis.
Et donc,
vous
avez raison de redéfinir et d'expliquer comment
dit cela,
l'acception aujourd'hui.
Une fois dit cela,
laissez-moi vous reposer une question, Laetitia Strauss-Bonnard. Est-ce que justement, vous ne voyez ni déploration, ni critique du modernisme dans, justement, c'est les invités de Donald Trump demain et dans la petite liste, qui n'est pas exhaustive, que j'ai
fait. Modernisme. C'est la détestation profonde de la modernité qui fait qu'on ne peut même pas faire de compromis avec elle. Donc il y a très peu de réactionnaires. Dans toute cette liste, je mettrais peut-être Éric Zemmour, qui en effet a un discours de déploration et ne propose rien de très concret. En revanche, Trump, mais pas du tout. Trump, il adore le monde moderne. C'est le monde moderne qu'il a créé. C'est la télé-réalité, c'est Twitter, c'est la société de consommation. Enfin, c'est vraiment. Alors, en plus, quand on regarde sa vie personnelle, c'est vraiment dur de dire que bon, Trump, c'est un exemple de vertu dans sa vie privée. Donc, c'est pas du tout un réactionnaire sur ce plan-là. Moi, je vois absolument pas de déploration. En revanche, Trump aime le progrès technique. Trump veut que l'Amérique s'enrichisse. Il veut créer des emplois. D'ailleurs, il l'a fait dans son premier mandat, ce qu'on ne dit jamais, tellement on aime le détester. C'est plutôt quelqu'un qui voit de l'avant. Alors bien sûr, il a une idée de ce qu'a pu être l'Amérique industrielle dans le passé, mais il ne cherche pas à faire ressurgir une sorte d'idéal. Il cherche simplement à... Bien si, mais il cherche à créer des emplois et à créer de la croissance. Et il l'a fait dans son premier mandat. Non, mais c'est pas un culte du passé. C'est juste.
Non, mais le slogan Make America Great Again est totalement un slogan passéiste qui veut renvoyer les États-Unis à ce qu'ils étaient dans les années 50.
Pas du tout. Le slogan vient de Ronald Reagan. Le slogan veut dire. Je pense que l'Amérique est bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui et je pense qu'elle peut faire mieux. Et dans son premier mandat, il a fait des réformes. Avant le Covid, qui sont allés dans ce sens. Donc, il me semble que l'appellation n'est pas bonne. La bonne appellation pour Donald Trump, c'est que c'est un national-populiste capitaliste. C'est bien particulier.
Alors,
il peut être national-populiste non-capitaliste aussi. Ça, c'est la version Marine Le Pen.
Et on va donner la parole aussi à nos autres débatteurs, si vous voulez bien, Laetitia. Sylvie Kaufmann, vous avez signé, justement, cette semaine dans Le Monde, votre édito consacré à cet international réactionnaire. Je ne dis pas que vous adoubez totalement cette appellation, mais pensez des arguments évoqués par Laetitia Strauss-Bonnard?
Non, justement, je voulais poser la question, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe, cette internationale réactionnaire dont Macron avait parlé devant les ambassadeurs? Elle n'existe pas en tant que telle, vous l'avez dit, on est tout à fait d'accord. Après, est-ce que le terme de réactionnaire, c'est un débat intéressant. Si vous voulez, Trump lui-même ne donne pas de contenu idéologique à ce qu'il fait en réalité. Mais il y a d'autres gens qui le font derrière lui, et notamment Peter Thiel. Peter Thiel qui est un de ces, ce qu'on appelle maintenant des oligarques, un de ces patrons de la tech. C'est le fondateur de PayPal. Il est aujourd'hui le PDG de Palantir. C'est un milliardaire. Il est aux côtés de Trump depuis 2016. Lui, c'est pas un nouvel arrivant comme Zuckerberg. Il est vraiment derrière Trump depuis son premier mandat.
On parle de broligarchie aujourd'hui.
Voilà.
L'oligarchie, c'est la broligarchie.
Et lui, donc, qui lui aussi vient de l'immigration, il est né en Allemagne, il est aussi passé par l'Afrique du Sud comme Elon Musk, qui lui est sud-africain à l'origine. Et donc, il vient de signer une tribune dans le Financial Times qui est vraiment intéressante parce que là, on voit émerger cette notion de réaction. Parce que lui, il parle de réaction contre l'ancien, il parle de l'ancien régime. Il parle de l'apocalypse. Il dit voilà, il faut prendre l'apocalypse au sens étymologique qui veut dire dévoilement. Et donc, le retour de Trump, c'est l'apocalypse des secrets de l'ancien régime. Et il utilise ancien régime en français, le terme. Il dit pour qu'il y ait réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait vérité. Et cette vérité qu'il prône, c'est faire la lumière sur tous les secrets de la société libérale ou de gauche ou démocrate, tout ce que, d'après lui, les administrations Biden, Obama et avant elle, les Clinton, tout ce que vous voudrez, ont caché au peuple américain. Il parle d'une guerre contre l'Internet, et là, qui a été menée par ces forces libérales. Et donc là, on voit qu'il appelle ça le complexe de la suppression des idées. Et donc cette volonté de retour à la liberté d'expression pure et dure, sans aucune restriction, le premier amendement sans aucun aménagement, premier amendement de la Constitution américaine qui consacre la liberté d'expression. Donc voilà, là je pense qu'on peut voir un élément de la réaction. Et on voit ça aussi dans une volonté de revenir sur l'ordre judiciaire du XXe siècle, en fait, c'est-à-dire tout ce qui a été construit par la Cour suprême, par les lois qui essayent de réparer les discriminations, de favoriser les minorités, de rétablir l'égalité, etc. La manière dont la Cour suprême d'aujourd'hui revient sur le droit à l'avortement, etc. Tout ça, c'est aussi une forme de réaction, de contre-révolution qui est revendiquée, d'ailleurs, contre un ordre établi qu'on attribue à un ancien régime. Donc, si on veut parler de réactionnaire, on peut trouver des éléments de cette réaction là-dedans. En revanche, là où je suis, je pense qu'on ne peut pas parler vraiment d'international réactionnaire, c'est quand on regarde, en effet, la liste des invités, non seulement des invités, mais de ceux qui n'y sont pas. Et alors, je suis désolée, Hervé, mais vous avez dit que Viktor Orban est invité. En fait, Viktor Orban n'a pas été invité. Il l'a dit lui-même, tout récemment. Alors. Non, il a fait son porte-parole a fait un communiqué il y a deux ou trois jours pour dire non. Le Premier ministre hongrois n'a pas été invité et c'est normal parce que c'est une cérémonie, l'investiture des présidents états-uniens américains qui ne prévoit pas d'invitation de chefs d'État étrangers ni de chefs
de gouvernement. Sauf que d'autres y seront.
En revanche, Giorgia Meloni est invitée, Première ministre italienne.
Donc la tradition est à bon dos, là.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a attendu hier pour dire qu'elle y allait. Et là, on voit aussi à quel point cette soi-disant international réactionnaire, est hétérogène et à quel point, cette liste d'invités vise aussi à diviser, notamment les pays européens.
Alors la question de ce débat aurait pu être l'international réactionnaire est-elle réactionnaire ? Je sais pas comment vous positionnez-vous, Jean-François Colosimo.
Alors, la réaction, c'est effectivement un phénomène qui apparaît avec la Révolution, je suis d'accord avec Laetitia, mais il faut quand même voir que la réaction au sens propre, c'est d'abord une posture philosophique et littéraire. Tu vois, bon, je veux dire, même Maurras, avec son abominable antisémitisme, le 6 février 1934, alors que les ligues veulent s'emparer du Parlement, il est chez sa maîtresse, il écrit des poèmes, vous comprenez ? Bon, je veux dire, donc il y a ça qu'il faut bien comprendre. Et effectivement, un réactionnaire se distingue radicalement d'un conservateur, certainement pensant que ce mot conservateur commence mal. Mais bien sûr que la réaction, c'est une posture d'ailleurs très philosophique et littéraire. Voyez Joseph de Maistre, mais voyez Chesterton dans le domaine anglais, voyez Bernanos, enfin, etc. Bon. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas défigurer le mot réactionnaire en la collant à cette espèce de compagnie tout à fait hétéroclite que Donald Trump réunit autour de lui. Malheureusement, il y a assez peu de poètes, d'historiens et d'écrivains dans cette bande-là, n'est-ce pas ? Voilà. Le deuxième point, c'est que effectivement, nous avons vécu depuis les Lumières sur l'empire du progrès, voire de la religion du progrès, et que cette religion, elle prend fin sous nos yeux. Et moi, ce que je déplore un tout petit peu, évidemment, je ne suis pas du tout pour que les gens que Trump réunit autour de lui gouvernent le monde, mais en attendant, je me rends compte que ce camp du progrès, d'abord, un, il est divisé. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir, par exemple, la gauche française, n'est-ce pas ? Il y a des véritables questions qui sont souvent des questions anthropologiques, d'ailleurs, qui divisent ce camp progressiste, n'est-ce pas ? Et qui portent très précisément sur la question de les droits sont-ils illimités dans leur individuation ? C'est exactement ça, la question. Donc ce camp progressiste devrait aussi parfois se demander pourquoi est-ce qu'il a nourri une telle réaction au sens, voilà, là, pour le coup, chimique du terme, pas au sens idéologique de réaction, mais pourquoi est-ce qu'il a nourri une telle réaction ? Bon, on voit que ce camp ne se pose pas la question, parce que ce camp reste, en quelque sorte, adhérent à sa religion du progrès, mais ce progrès, ça y est, il est fini. La modernité, elle est finie. Nous sommes rentrés dans une post-modernité.
La post-modernité ?
C'est la modernité qui se continue sans plus de projet d'espérance. Et qui procède par collage. c'est comme tout à fait dans ce qu'on voit en peinture, ce qu'on voit en littérature, n'est-ce pas ? Il y a une espèce de réactivation, pas réaction, réactivation des formes du passé qu'on essaie de mettre ensemble.
Bon, je renvoie. Ça fonctionne pas tellement avec Elon Musk ou avec Jeff Bezos. C'est-à-dire, il peut y avoir, ça peut être vu comme une forme d'espérance que d'imaginer un avenir pour l'espèce humaine.
Oui, à la manière, une manière un peu nazifiante d'un enfant malade qui rêve sur les fusées.
Oui, mais on peut imaginer que
sur la planète Mars.
On peut imaginer que les deux se vivent comme des personnes de progrès.
Alors là, on est d'accord, c'est que la postmodernité, c'est en fait le mariage du progrès qui est rapporté simplement à la technologie, qu'on fait par exemple le transhumanisme, on va vous offrir l'immortalité, vous allez courir plus vite qu'un bolide de rallye, etc., avec des réflexes très archaïques d'identité. Et si on ne veut pas comprendre ça, on ne comprend pas ce qui se passe, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que cette fausse internationale, en quelque sorte, c'est vrai qu'elle n'a pas de centre, elle n'a pas de programme, elle n'a pas, etc., elle a cela en commun qui, vous voyez, un libertarien comme le président argentin à côté de Mélanie, qui est une étato, grande partie quand même, enfin, qui a une formation très européenne, même si sa jeunesse militante, elle a une formation idéologique, qu'on lui reproche d'ailleurs, donc c'est bien qu'elle l'a. Donc, par rapport à ça, il faut bien comprendre ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est une chose essentielle, c'est qu'ils ont bien compris, eux, que les gens qui prétendent lutter contre la norme au nom de l'anomie et du respect des différences sont des gens qui veulent imposer une nouvelle norme. Et c'est ça le problème, le fond. Donc il y a là un vrai choc, n'est-ce pas ? Et le deuxième point qui me semble important, c'est que ces gens-là sont effectivement dans ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Mais si on ne veut pas analyser le nihilisme qu'a créé aussi la modernité, avec son matérialisme et son consumérisme, n'est-ce pas, et son absence, au fond, d'horizon eschatologique, d'horizon d'espérance, on ne comprendra pas de quoi ils sont la réaction.
Anne-Laure Bujon.
Non, beaucoup de choses qui me semblent très intéressantes dans ce que vient de dire Jean-François Colosimo. Je suis absolument d'accord sur cette espèce de mélange assez inédit, en fait, entre des représentations totalement archaïques ou pré-modernes et des représentations techno-futuristes, pour le dire simplement. Et c'est vrai que c'est ça qu'on sent chez un Peter Thiel, par exemple, qui est foncièrement un pessimiste, qui n'aime pas la démocratie, qui ne croit pas en la démocratie, il défend la liberté contre la démocratie. Il faut faire ce petit chemin avec lui quand même pour voir de quoi il s'agit. Et derrière ça, il y a une vision en fait qui correspond à une forme de darwinisme social, enfin que le meilleur gagne. Hein. Donc il n'y a plus de règles de droit pour protéger les faibles contre les forts. Exit. Donc ça me paraît effectivement très très important pour comprendre cette confusion idéologique et les bribes de discours et de représentations qui émergent ça et là. Mais rappelons-nous donc, c'est réinvestiture de Donald Trump, le point de départ. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve cruel, moi, c'est ce constat que Joe Biden, qui avait ouvert son mandat il y a 4 ans, avec cet engagement à restaurer les normes de la démocratie, de la raison partagée, de l'espace public, en fait, a échoué. Il a dit, on est dans un combat entre l'autocratie et la démocratie. Et ce qu'on voit au bout de 4 ans, c'est que encore plus que quand il a pris le pouvoir, les leaders qui ont le vent en poupe à travers le monde, ce ne sont pas ceux qui défendent la démocratie et l'espace public et la raison partagée.
Laetitia Sroche-Gonard.
N'est-ce pas justement parce que les démocrates, non seulement n'ont pas compris ce que vous disiez, Jean-François Colosimo, mais c'est que il ne cherche pas à se rapprocher de ceux qui aimeraient qu'on prenne en considération, par exemple, leur attachement à la nation. Il les méprise. Ce qu'a fait le Parti démocrate pendant 4 ans, c'est qu'il a été élu sur une campagne de centre, mais il a gouverné quand même au centre-gauche et de plus en plus à gauche. Comment vous voulez qu'ensuite il n'y ait pas une réaction avec un petit R?
Une sorte de Franklin Roosevelt en un peu moins déterminé.
Non, c'est pas du tout comme ça que les démocrates ont dirigé le pays. Et vous devez avoir remarqué qu'après le 7 octobre, l'état dans lequel étaient les universités américaines était absolument dramatique. Et je n'ai pas eu l'impression que les démocrates aient critiqué outre mesure les étudiants qui défendaient le Hamas. Enfin, c'est tout un ensemble que l'Amérique profonde ne supporte plus. L'Amérique profonde ne supporte plus la façon dont les élites des côtes Est et Ouest ont gouverné le pays pendant longtemps. Et ça comprend aussi les élites de droite. Et elles se sont rapprochées de la première opportunité politique venue, qui était Donald Trump. Alors, on peut le détester, et en effet, il a beaucoup de défauts. Mais c'est
mais on
le
arrête,
seul
mais c'est la fin de l'émission. Laetitia Strozzoner.
Il y avait une demande politique légitime, puisque vous me parlez sans cesse de démocratie. Eh bien, c'est ça, la démocratie.
Voilà. Conclusion provisoire pour aujourd'hui. Merci Laetitia Strozzoner, Jean-François Colosimo, Anne-Lorraine Bujon et Sylvie Kaufmann. Merci à Anne-Claire Bazin qui a préparé l'émission, à Luc Jean-Reno qui l'a réalisé et à la prise de son, Élise Leu.